quatrième et dernier temps de notre série consacrée aux lieux d'écrivains. Aujourd'hui, le documentaire signé Séverine Yatar et Anne Fleury. Lundi, nous avons pu écouter l'historienne Michel Perrault nous parler du rapport de Georges Sand à sa maison de Nohant. Mardi, de la mémoire des écrivains d'extrême droite collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Hier, de la patrimonialisation des maisons d'écrivains. Et aujourd'hui, Séverine Yatar et Anne Fleury nous conduisent sur les pas des écrivains et des penseurs dans un lieu qui s'est vu remettre collectivement le diplôme d'honneur de Juste parmi les nations par Yad Vashem, le Chambon-sur-Lignon. Un lieu fréquenté pendant les années 30 et jusqu'à la Libération par nombre d'écrivains et de penseurs comme Raymond Aron, Francis Ponge, Paul Ricoeur, André Chouraqui, Jules Isaac ou encore Léon Poliakov, un lieu que la sociologue Nathalie Hennisch s'attache à faire revivre en balade autour du Chambon dans cette liaison avec les écrivains et les penseurs.
Quand j'ai acheté ma maison il y a 6 ans au Chambon, j'étais déjà au courant d'un certain nombre d'intellectuels qui avaient séjourné dans le coin, puisque ça faisait très longtemps que je venais en vacances par ici. Et donc, je savais ce que un peu tout le monde savait, qu'Albert Camus, Francis Ponge, Paul Ricoeur, Marcel Pagnol avaient séjourné ici plus ou moins longtemps.
Nathalie Hennick, sociologue.
Mais j'ai ensuite découvert que bien d'autres intellectuels aussi avaient été là, et je l'ai découvert en lisant le très beau livre qui a été publié à l'occasion de l'ouverture du lieu de mémoire en 2013, donc La Montagne Refuge. Et là, il y a des chapitres consacrés à la présence au Chambon ou alentour de Pierre Vidal-Naquet, de Jules Isaac, de Georges Vaïda, de Jacob Gordin et Georges Lévit, donc la fameuse école des prophètes, de Léon Poliakov, donc les juifs réfugiés pendant la guerre. Donc ce qui était troublant, c'est que dans un rayon de 10 km² et sur une génération, entre le milieu des années 20 et la fin des années 40, on a, donc j'ai compté, 17 intellectuels de niveau national, voire international, que ce soit donc des poètes, des romanciers, mathématiciens, économistes, historiens, philosophes, voilà. Et on a quand même des œuvres absolument majeures. On a, bon, La Peste de Camus, on a une grande partie de l'œuvre de Francis Ponge, on a Jésus et Israël de Jules Isaac, qui a quand même été quelque chose de fondamental dans la vie intellectuelle, politique, religieuse de l'après-guerre. On a les grands ouvrages des spécialistes de pensée juive, de Gordin, de Vaïda, Poliakov quand même, a conçu l'histoire de l'antisémitisme ici. Du mode d'existence des objets techniques de Simondon, il l'a écrit ici aussi. Voilà. Donc, c'est quand même assez exceptionnel, et je trouve que ça méritait de faire quelque chose.
Sur les traces d'écrivains et de penseurs, autour du Chambon-sur-Lignon.
Puis là, j'ai décidé d'organiser un parcours pour les amis du lieu de mémoire, où on va de hameau en lieu dit. Dans certains cas, pour Camus par exemple, on savait quelle était la maison. Mais dans beaucoup d'autres cas, on savait vaguement que c'était dans tel hameau, mais on connaissait pas la maison. Donc j'ai enquêté, parce que je trouvais que c'était important de retrouver les maisons elles-mêmes.
Et c'est une manière aussi, Nathalie Hennick, justement, d'entretenir ce lieu d'exceptionnalité. Parce que déjà, le Chambon, c'est un peu un lieu exceptionnel, puisque refuge pendant la guerre de nombreux juifs. Alors là, refuge des écrivains. Oui. Aussi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un refuge au sens strict du terme pour les Juifs, qui entre juin 42 avec Grothendieck et l'été 44 avec ceux qui sont restés jusqu'à la libération, ont séjourné ici, donc ils sont au nombre de 8. Mais il y a aussi des gens qui étaient là pour des raisons très différentes, notamment le protestantisme, puisque c'est une région extrêmement protestante. Puis la troisième raison, c'est l'hygiène et le tourisme. Au tout début du XXe siècle, l'arrivée du train a fait de cette région un lieu de villégiature pour des gens de la bonne bourgeoisie originaire de Saint-Étienne, de Lyon, etc., qui venaient prendre l'air. On avait même des publicités qui disaient « Saint-Agrève cure d'air ». Donc on a une configuration de raisons assez différentes, mais qui sont toutes liées à la géographie, c'est-à-dire d'une part l'isolement qui a amené les protestants ici à l'origine, l'isolement de la montagne qui donne le bon air et qui donne donc ce tourisme hygiénique, et le train qui a été très important puisqu'il a permis dès le début du XXe siècle de relier ce qu'on appelle le plateau ici, non seulement au nord via Saint-Étienne et Lyon, mais aussi à Marseille. Ça a permis aussi d'ailleurs le développement des maquis. Hein. Il y avait énormément de maquis ici pendant la guerre pour les mêmes raisons.
Et on a le sentiment, en fait, Nathalie Hennig, qu'à chaque fois, c'est une histoire entre juifs et protestants. Enfin, de ce lien-là, qu'il soit direct ou d'ailleurs indirect, parce que qu'il s'agisse des enfants bon, qui ont été recueillis par des paysans ou des personnes du Chambon, aidés par les fameux pasteurs du Chambon, ou après ces écrivains qui avaient soit des amis protestants ou qui se marient avec quelqu'un du Chambon et qui donc sont de passage ici. Et vous, c'est aussi votre histoire, d'ailleurs, Nathalie Hennig.
Oui, c'est mon histoire, puisque j'ai découvert le plateau à l'âge d'un an et demi, je crois, quand mes parents m'y ont emmené en vacances parce que mon père, qui avait été réfugié avec sa famille à Saint-Agrève pendant la guerre, avait gardé des liens avec des gens d'ici, donc ça a été un peu mon deuxième pays, disons. Et puis ensuite, je suis passée de Saint-Agrève au Mazé-Saint-Voix parce que la sœur de ma mère, qui elle était protestante, hein, juif et protestant, qui avait épousé un protestant rencontré au collège Sevenol, a décidé d'acheter une maison dans le coin. Et donc voilà, j'ai eu deux implantations, l'une juive, l'autre protestante, l'une paternelle, l'autre maternelle. Enfin, et c'est vrai qu'une partie des juifs qui étaient là parce qu'ils avaient des liens avec les protestants.
Aziza Grill-Mariott, historienne de l'art et responsable de la programmation culturelle et scientifique du lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon.
Donc au XVIe siècle, on est dans une région où les colporteurs arrivent de Genève et traversent comme ça la France jusque dans les Cévennes et vont au fur et à mesure distiller la réforme autour de Devecé, le Chambon-sur-Lignon, le Mazé-Saint-Voix, durant les dragonnades et durant donc la révocation de l'édit de Nantes. L'isolation et l'éloignement a facilité ce que les huguenots et les protestants français appellent le refuge et la période du désert, c'est-à-dire ils ont continué à pratiquer leur culte, même si les temples du Chambon et du Mazé avaient été détruits, ils ont continué à pratiquer leur culte clandestinement. Donc un territoire extrêmement protestant qui va être divisé en deux sous la Révolution française et l'Empire, avec deux départements, département de l'Ardèche et département de la Haute-Loire, avec l'idée de ne pas créer un département protestant. Et au XIXe siècle, toute cette culture protestante a été très très entretenue par des récits. On est aussi, comme on est sur un territoire protestant, la lecture de la Bible est extrêmement importante, donc on est sur un réseau d'habitats très dispersés avec de très nombreuses écoles, tous les hameaux ont leur école. Et donc on a des habitants qui sont certes des fermiers très pauvres, parce qu'on a une polyculture qui est assez... on est à 1000 mètres, hein, donc c'est vraiment une agriculture très, très, très peu développée, avec des micro-élevages, etc. Mais on a des gens qui sont cultivés parce qu'ils lisent, tout le monde lit, et il y a des livres, et le livre, c'est la Bible. Donc vous imaginez bien que les réfugiés, ils vont quand même être accueillis de façon tout à fait différente ici que dans d'autres régions rurales de France, parce que ce sont des gens que les habitants connaissent. Ça, c'est un aspect quand même qui est extrêmement important, et en même temps, c'est un territoire qui va être extrêmement bien relié à partir de 1902 avec l'arrivée du train. Au départ, l'objectif de cette ligne qui vient de Saint-Étienne, surtout, c'est un objectif économique. C'est pour répondre aux besoins de la mine de Saint-Étienne en bois. La mine de Saint-Étienne a besoin de bois. Les fermiers vont vendre leur bois, ils vont s'enrichir, ils vont faire construire ce qu'on appelle le carré d'habitation, c'est-à-dire à côté du bâtiment du corps de ferme, une partie un peu plus grande, un peu plus bourgeoise, avec des fenêtres, qui vont louer aux touristes. Et ça, ça apparaît à partir de 1902. Et ça se développe dans les années 20, dans les années 30. Donc quand des familles entières juives vont venir louer le carré d'habitation à l'année, bah, qu'elles soient juives ou pas juives, peu importe, finalement, elles sont là à l'année, c'est beaucoup mieux. Et il faut aussi savoir qu'il va y avoir aussi à ce moment-là beaucoup de construction de ce qu'on appelle des villas. Donc ça, c'est un phénomène plutôt dans les années 30. Avec, au Chambon, une particularité, c'est que comme on est dans un village protestant et qu'en plus, à ce moment-là, on a un maire qui s'appelle Charles Guillon, qui est pasteur, et qui va créer toute une série de publicités protestants, venez passer vos vacances au Chambon. Donc les gens vont se faire construire des villas ou louer des villas. Et on a beaucoup de gens aussi, pendant la guerre, qui vont rester là pas parce qu'ils ont besoin de se cacher, mais parce qu'on y vit mieux qu'en ville. C'est plus facile de se ravitailler. On est aussi dans une zone de toutes petites fermes, et donc ces petites fermes vont être beaucoup moins soumises aux prélèvements obligatoires des nazis.
Le lieu de mémoire est inauguré en juin 2013.
En 1990, le village du Chambon-sur-Lignon et ses alentours en Haute-Loire ont été collectivement reconnus comme justes par l'Institut Yad Vashem pour avoir sauvé de nombreux juifs, en particulier des enfants, lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est un tout nouveau lieu de mémoire, d'histoire et d'éducation qui a ouvert ses portes début juin au Chambon, à côté de l'école, en face du temple protestant. Nous étions présents à l'inauguration.
Patrick Cabanel, historien.
Ici, sur le plateau du Vivarais-Lignon, sur lequel nous nous trouvons, il a été décerné environ 80 médailles de juste à des personnes, hommes et femmes. Et au bout d'un moment, l'État d'Israël a décidé qu'il y avait eu une telle générosité que Yad Vashem a décidé de donner un diplôme d'honneur collectif, une sorte de titre collectif, qui est allé à l'ensemble des communes et des habitants, y compris, pas seulement les protestants, mais aussi les catholiques, de l'ensemble de ce plateau, c'est-à-dire à peu près une petite dizaine de communes. Et donc l'idée, c'est de permettre aux gens de comprendre pourquoi une telle réputation internationale. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de banal? Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel? Et la meilleure façon d'expliquer les choses, c'est soit d'écrire un livre, soit d'imaginer ce que nous appelons un lieu de mémoire, pour permettre aux gens, effectivement, de se promener dans un paysage, dans une histoire, et dans l'intelligence de ce qui s'est passé. C'est ici.
Si on veut retracer, je dirais qu'il y a le temps de la mémoire qui commence en fait à peu près au même moment que la mémoire de la Shoah, après le procès à Eichmann, parce que la plaque elle est inaugurée en 79. Donc on est vraiment, c'est le moment où on a une profusion de plaques qui sont disposées un peu partout, là où il y a eu des déportations, des arrestations en masse, etc. Ensuite, il y a le temps des historiens, les historiens vont s'emparer de ça. Et les historiens, à ce moment-là, ils vont peut-être un peu contribuer à cliver un peu, d'un côté les témoins, une partie résistance civile, de l'autre côté les tenants du pasteur Trocmé qui vont mettre en avant la non-violence, etc. Et de l'autre côté la résistance armée. Mais les personnes qui s'engagent à cette époque-là ne vont pas décider « je suis dans la résistance spirituelle et puis après je vais passer à la résistance civile ». Enfin, voilà, c'est des concepts qui arrivent en fait beaucoup plus tard par les historiens. Et évidemment, il y a cette confrontation entre les témoins et les historiens qui est très visible au moment de 90, au moment où il y a un gros colloque ici organisé sur le Haut-Chambon et dans les environs, qui va être publié par la Société d'Histoire de la Montagne. Et début des années 2000, il y a une explosion en fait de monuments commémoratifs à l'échelle de tout le plateau, où l'ASHM notamment va être obsédée par la commémoration de la résistance armée. Donc la mémoire et l'histoire a longtemps été ici clivées, et c'est une des explications du fait que le bâtiment ait pu émerger finalement qu'en 2013. Quoi.
À Tence, le pasteur Roland Lénart encourage ses paroissiens à venir en aide aux Juifs dans la mesure de leurs moyens, après la rafle du 26 août 1942. Les Juifs sont tyrannisés par les Français. Il faut lutter contre les mesures prises contre les Israélites.
Donc c'est un petit peu un autre éclairage sur ce dont il est question dans le lieu de mémoire, à savoir les justes et l'aide aux juifs. Cette aide aux juifs a bénéficié aussi à de grands intellectuels juifs, et il y a eu aussi, pour les raisons diverses que j'ai dites, cette conjonction d'intellectuels qui étaient là pour d'autres raisons, qui fait que on peut raconter une histoire et de façon chronologique, à un certain moment, certains arrivent, puis d'autres les remplacent, puis d'autres sont là. Et alors surtout, ce que j'ai découvert et qui m'a absolument fasciné, c'est qu'ils se fréquentaient. Alors pas tous, mais j'ai quand même réussi à reconstituer par leur mémoire, essentiellement par des autobiographies, des correspondances, les liens qui ont uni un certain nombre d'entre eux quand ils étaient sur le plateau, Et qui fait que j'ai pu aussi reconstituer les chemins, les itinéraires qu'il parcourait à pied ou en bicyclette pour se rendre visite. Et donc ça donne un parcours que j'ai conçu de façon à ce qu'on perde le moins de temps, hein, en gros, et qu'on fasse le moins de kilomètres, et qui nous mène donc de chez Francis Ponge à chez Albert Camus, puis Raymond Aron, puis Louis Comte et Charles Gide, puis Georges Canguilhem. Alors tout ça, c'est sur 3 km², hein, c'est tout près. Ensuite, on passe à Tence où il y a Poliakov, Simondon, Chouraki, l'école des prophètes, donc Gordin et Lévy. Donc là, pour trouver la maison de Ponge, le problème, on savait que c'était à la Suchère, mais on ne savait pas où. Et donc quelqu'un, alors je ne sais plus qui, m'a dit, mais demande à monsieur et madame Henri, ce sont des historiens qui ont une maison d'été à la Suchère et ils savent. Et en effet, je suis allée les voir et très gentiment, ils m'ont montré la maison. Voilà.
Donc voilà, on est sur le plateau de la Suchère, à 2-3 km en fait, du Chambon-sur-Lignon.
Oui, c'est un hameau qui est donc à vol d'oiseau à 2-3 km, donc on est vraiment tout près du Chambon. C'était parfaitement possible à l'époque d'aller à pied au Chambon. Enfin, c'était pas un problème à l'époque où on marchait volontiers. Et l'époque en question, c'est dès les années 1920, Francis Ponge, donc un des grands poètes français du XXe siècle, est venu sur le plateau, comme on dit, en vacances tout simplement. Il avait une vingtaine d'années, hein, il était protestant. Il gagnait sa vie en travaillant dans des imprimeries. Voilà, il avait une vie tout à fait modeste. Hein. Il a rencontré au Chambon Odette Chabanel, qui va devenir donc son épouse. Ils ont donc habité différents endroits au Chambon l'été, mais notamment cette maison de la Suchère, qui a été plusieurs fois leur villégiature estivale et où l'on peut imaginer qu'il a écrit ou conçu un certain nombre de ses poèmes. Et on est certain en tout cas que sur le plateau, il a écrit d'abord le Carnet du bois de pin à la fin des années 30, qui est le premier travail poétique consistant à donner au lecteur toutes les étapes d'élaboration d'un poème. Donc c'était un travail extrêmement original. Ce bois de pin, alors tout le monde s'interroge dans le pays pour savoir de quel bois de pin exactement il s'agissait. En tout cas, il y en a beaucoup dans le coin, donc on a le choix. Là, vous voyez une ferme typique du pays, avec sa montée de grange, son carré d'habitation. Enfin, on a encore beaucoup de fermes qui restent en l'état. Et la maison où logeait Francis Ponge était aussi une ancienne ferme, sauf que pour abriter les estivants, les fermiers avaient pris l'habitude, pour certains d'entre eux, de louer l'étage, d'où l'escalier extérieur que l'on voit, qui a dû être rajouté probablement pour permettre un accès autonome aux estivants qui venaient donc l'été louer l'étage supérieur. Et ils connaissaient déjà Albert Camus, avant de venir ici pendant la guerre. Et donc on peut imaginer que Camus et Ponge se sont fréquentés ici.
Et pendant la guerre, en fait, Nathalie Aniquès, qu'est-ce qu'il fait, bon?
Alors pendant la guerre, il était résistant, de même que Camus. Ça faisait aussi partie de leur lien. Ils avaient été mis en relation, je crois, par Pascal Pia à Lyon, si je ne me trompe pas. Et donc, il va continuer à travailler. Il était délégué syndical. Il avait appartenu au Parti communiste, mais qu'il abandonnera assez rapidement. Et voilà. Et donc, l'idée, c'était aussi de redonner vie aux chemins qui sont en train de disparaître, qui sont souvent des chemins ancestraux magnifiques. Et leur redonner vie, c'est aussi retracer la mémoire des gens qui les ont empruntés, et notamment de ces intellectuels. Donc c'est comme si les pieds, le fait d'éprouver physiquement les sensations, le pinson, le soleil, le vent dans les arbres, les odeurs. Là, on a les foins qui viennent d'être coupés, on a des odeurs extraordinaires. Et je trouve que c'est une façon de se relier au passé qui est très physique et très, très émouvante. Et surtout, ce qui est très intéressant ici aussi, sur le plateau, c'est qu'on a une grande continuité des paysages. On peut s'imaginer très facilement, il y a 50 ou 100 ans, à l'époque où venaient ces intellectuels. Donc, qu'on a évoqué. J'aimerais vous lire quelques toutes petites citations de Ponge. Hein. C'est la toute fin de La Fabrique du Pré. qui a donc été publié dans les années 70. Voici donc sur ce pré l'occasion comme il faut prématurément d'en finir.
Messieurs les typographes, placez donc ici, je vous prie, le trait final, puis dessous. Sans le moindre interligne couché, mon nom, pris dans le bas de casse, naturellement, sauf les initiales, bien sûr, puisque ce sont aussi celles du fenouil et de la prêle qui demain croîtront dessus. Francis Ponge.
C'est très émouvant de se confronter au référent d'un poème, d'autant plus intéressant que tout le travail poétique de Francis Ponge a consisté à trouver une écriture qui soit l'homologue du référent dont il est question dans le poème. Quand il a écrit le parti pris des choses, quand il a écrit sur l'éponge, le galet, etc., il ne s'agissait pas de faire une sorte d'éloge, d'apologie de la beauté des choses. Il s'agissait de trouver la forme de description qui soit vraiment dans la plus grande correspondance avec l'objet en question. Et donc là, on voit qu'en effet, cette référence à la fois au fenouil et à la prêle et aux lettres typographiques, n'oublions pas qu'il a travaillé dans l'imprimerie, qui composent sa signature, FP, Francis Ponge, est une sorte de métonymie de tout son travail poétique.
Alors maintenant, Nathalie Hennig, vous nous emmenez où, hein ?
Je vous emmène chez un ami de Ponge qui était Albert Camus, voilà, et qui est à quelques kilomètres d'ici dans un hameau qui s'appelle Panelier. Là, on a le petit pont sur la Ligne. La Ligne, c'était l'affluent du Lignon. C'est une toute petite rivière absolument charmante, vous pouvez le voir, où Camus aimait beaucoup pêcher. C'était un grand pêcheur. Et on est tout près de Panelier, où il habitait. Regardez la beauté de ces deux murs de pierre. C'est absolument magnifique. Voilà le petit hameau de Panelier, où nous allons nous garer. Tant bien que mal, on va se garer un peu plus bas. Donc là, vous voyez un très beau manoir qui date du XVIIe siècle. Je crois qu'il avait été construit par une famille de notaires protestants. Et donc, c'est le dos de la ferme où était installée la pension de famille où séjournait Camus, et la ferme qui était la ferme du manoir, donc qui se trouve juste derrière. Et voilà, c'est une des rares très belle propriété de ce pays qui était un pays pauvre. Hein. Il est très beau avec ses murs de granit, son toit de lauze, ses petites fenêtres.
Toujours des ouvertures étroites, hein, à cause du, on peut imaginer à cause du froid l'hiver.
Bien sûr, parce que l'hiver est connu pour sa dureté ici. On a souvent des mètres de neige, des congères, un vent très violent qui s'appelle la burle, qui est capable de faire des congères de 2 mètres en très peu de temps. Il y a beaucoup d'érables aussi, hein. Parmi les arbres de la région, on a beaucoup, beaucoup d'érables, on en voit ici, magnifiques. Des marronniers, bien sûr, encore que là, on est du côté Haute-Loire de la ligne de partage des eaux, donc du côté Atlantique, donc moins de marronniers. Il suffit de faire 10-15 km en direction de Saint-Agrève, on passe la ligne de partage des eaux, on se retrouve en Ardèche et côté Méditerranée, et là, tout d'un coup, on voit les marronniers, ou les châtaigniers, qui sont vraiment l'arbre typique de ce côté-là. Alors, on va contourner ici pour regarder au dernier étage. La fenêtre du milieu était celle où Camus a écrit La Peste, où il a écrit une grande partie du Malentendu, où il a conçu L'Homme révolté, puisque donc en août 42, il est atteint de tuberculose. On lui conseille un séjour à la montagne, donc il choisit cet endroit parce qu'il connaissait quelqu'un qui connaissait, etc. Il avait simplement l'intention d'y passer 2 mois d'été. Sa femme Francine est repartie à Oran, dont elle était originaire. Et il se trouve qu'évidemment, en octobre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Du coup, les Allemands envahissent la zone sud et Camus ne peut plus repartir et se retrouve bloqué ici où il va passer encore un an, c'est-à-dire qu'il restera là jusqu'en novembre 1943. avec des sentiments mitigés, hein, très ambivalents, parce que c'est quand même lourd, il est tout seul, il fait très
il
froid,
ennuie, hein,
il s'y ennuie, alors bon, bien sûr, il écrit, il a quand même des relations, donc on a vu qu'il connaissait Francis Ponge, on peut imaginer qu'il l'a rencontré sur le plateau, il a surtout retrouvé ici André Chouraqui, qu'ils avaient connu, sa femme et lui, à Oran, puisque Chouraqui était également originaire d'Oran. Il a, grâce à Chouraqui, rencontré Georges Vaïda, qui est arrivé en octobre 1942. Georges Vaïda, grand érudit, spécialiste de la pensée juive, du Moyen-Âge, à qui on peut imaginer que Camus a demandé des renseignements sur le rôle de la peste dans la Bible. Hein. Voilà, donc il y avait aussi des liens intellectuels.
Camus avait commencé d'écrire la peste en 1940. Le livre s'ouvre sur une description d'Oran, précisément en 1940. Albert Camus lit les premières pages de la peste.
Radio-télévision française, janvier 1960.
Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. De l'avis général, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer, est laide. D'aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardins, où l'on ne rencontre ni battement d'ailes ni froissement de feuilles, un lieu neutre pour tout dire. Le changement des saisons ne s'y lit que dans le ciel. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que de petits vendeurs amènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, c'est au contraire un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver.
Et maintenant, nous allons rendre visite à Raymond Aron en faisant cette hypothèse. Donc, en septembre 1949, quand Camus revient sur le plateau pour se soigner à Panelier, il apprend que son ami et complice Raymond Aron termine ses vacances tout près d'ici aux Ruches et donc va lui rendre visite. Donc, on arrive à ce petit hameau des Ruches où Raymond Aron, un été, avait loué pour sa famille et lui-même un appartement à l'étage d'une ferme, comme Francis Ponge, grâce à son ami Georges Canguilhem. Ils s'étaient connus à l'école normale supérieure, ils étaient condisciples, ils étaient aussi tous les deux de grands résistants. Enfin, Raymond Aron avait rejoint le général de Gaulle dès juin 40 à Londres, et donc on peut imaginer les marches qu'il faisait ici pour se rendre visite, puisque la maison de Canguilhem est tout près d'ici. Donc là, nous allons chez Georges Canguilhem, mais nous allons juste sur le chemin passer devant une maison qui a eu un rôle très important dans le pays, puisque c'est celle qu'occupait l'été Louis Comte, tout près de celle qu'occupait son ami Charles J. Voilà, et on va juste se garer ici. Voilà, donc le pasteur Comte, qui est un monsieur du 19e siècle, a créé l'œuvre des enfants à la montagne, qui était une œuvre caritative, hein, qui a consisté à faire venir sur le plateau des enfants de familles pauvres de Saint-Étienne et de Lyon pour leur redonner un tout petit peu de chance, bonne de bonne santé. Et donc son ami Charles Gide, qui était économiste, qui a été professeur au Collège de France, logé l'été dans une maison qui est juste en face, de l'autre côté de la route. Et tous les deux étaient évidemment des protestants convaincus, tous les deux étaient même des activistes, militants de la Ligue des droits de l'homme. Charles Gide a été très actif dans la création des coopératives, il a notamment été à l'origine de la coopérative du Mazet-Saint-Voix, tout près d'ici. Louis Comte est mort en 1926, Charles Gide, je crois, en 1930. Et donc j'ai imaginé que, encore au milieu des années 20, il venait en vacances ici, ce qui marque le début de cette génération d'intellectuels présents sur le plateau.
À l'époque, le chambon s'appelle le chambon de temps. C'est un tout petit bled, mais vraiment, vraiment quelque chose d'extrêmement petit autour, qui s'est développé autour du temple. Quand la gare est construite en 1902, elle est construite au milieu des champs. Il va y avoir quelques hôtels qui vont se construire autour, mais à ce moment-là, les maires successifs vont avoir une véritable politique, effectivement, en faveur de l'enfant.
Aziza Grill-Mariotte.
C'est un choix qui est lié à l'œuvre des enfants à la montagne, qui est une œuvre protestante qui offre des séjours de 3 à 4 semaines au bon air pour les enfants des mineurs de Saint-Étienne et puis ensuite des grandes villes. Alors au départ, ce ne sont pas des structures collectives pour l'œuvre des enfants à la montagne. On est sur de l'accueil à la ferme. Ces fermiers, ils vont trouver en fait un complément de revenus en accueillant des enfants durant la saison d'été. Donc il faut imaginer que ces enfants, ils sont pesés au départ sur la gare de Saint-Étienne et qu'ils sont pesés au retour parce que l'objectif, c'est qu'ils aient pris quelques kilos. Alors l'objectif, c'est vraiment un objectif hygiéniste avec l'idée qu'ils vont être au bon air, ils vont être mieux nourris et donc ils ne vont pas attraper la tuberculose. C'est pas on est dans du préventorium, on n'est pas dans du sanatorium. Ensuite, il va y avoir la création plus tard dans les années 20 de structures collectives qui vont être réservées aux adolescents. C'est pour les jeunes gens et les jeunes femmes. Alors les jeunes femmes, en réalité, souvent, c'est des jeunes filles mères et donc on veut les extraire de leur milieu. Et là, il y a un côté social très fort avec l'idée qu'on va, entre guillemets, les rééduquer, etc. Voilà. Évidemment, toutes ces structures, pendant la guerre, elles vont être rentabilisées, réutilisées. Et pendant la guerre, il va y avoir deux types de maisons d'enfants. Il va y avoir des maisons d'enfants ouvertes par des organismes de secours. Donc, c'est le cas notamment de l'œuvre du secours aux enfants, qui dépend de la Croix-Rouge. Et puis, vous allez avoir beaucoup de particuliers qui vont acheter ou louer des maisons et ouvrir des maisons d'enfants dont les pensions sont payées par les parents. Donc, évidemment, pas du tout le même niveau social. Donc, il y a vraiment, finalement, un accueil très, très social et puis un accueil très aisé.
Et cohabitation de deux types de
absolument.
Populations.
Deux types de
très
populations.
Très bourgeoises et très modestes.
Et la réussite du sauvetage pendant la guerre, elle est liée aussi au fait qu'aucune maison ne va être ouverte par des organismes de secours juifs et aucune maison ne va recevoir 100% des juifs. C'est-à-dire, certaines vont être à 80%, d'autres à 30%, et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir les dissimuler en fait.
On va traverser la petite ville de Tence. Sans faire les arrêts, et on va aller directement au Chaumargé pour Chouraki.
Voilà. Voilà. Comme ça, après, on parlera de l'Ossidie.
Voilà. On fera donc Chaumargé, Istor, le pont du Cholet, et on reviendra au Chambon. Donc là, on va prendre une très jolie petite route pour rejoindre la petite ville de Tence, qui est au départ qui était plus importante que le Chambon d'ailleurs. Il y a eu aussi une papeterie désaffectée qui a servi à la fin des années 30 de lieu d'habitation pour les réfugiés espagnols. Donc la tradition du refuge s'est maintenue via les réfugiés espagnols, ensuite remplacée par les juifs. Alors une autre particularité, c'est que Tence est catholique.
Ah oui.
Et chaque village, en fait, a sa spécificité religieuse. Donc Tence est catholique. Le Chambon est moitié catholique, moitié protestant. Le Mazé-Savoie est à 80% protestant, ce qui est énorme, compte tenu du fait que c'est quand même une religion extrêmement minoritaire en France. Voilà, donc Tence, c'est là que Léon Poliakov, jeune résistant juif pourchassé, a loué à la sortie du village une maison, enfin plutôt une chambre, dans une maison qui appartenait à une sage-femme, mademoiselle Jonac. D'avril 44 à août 44, il faisait partie du réseau André, donc ce réseau de résistance juive qui a beaucoup fait pour cacher des juifs et notamment des enfants. Il a donc, je ne sais pas comment, appris la présence à Chaumargé, donc il était là-bas, le Poliakov. Enfin, on va pas y aller parce que on n'a pas le temps. Il a appris la présence à Chaumargé, où nous allons maintenant, d'André Chouraki, qui était lui aussi résistant, mais dans le cadre des réseaux de l'OSÉ, l'œuvre de secours aux enfants. Et c'est comme ça qu'il a fréquenté l'école des prophètes à Istor. Alors, on va peut-être se garer ici, je crois que c'est le plus simple. Et donc là, on va se diriger vers la maison qui appartenait par sa famille au docteur Paul Héritier et qu'il n'utilisait que l'été comme maison de vacances. Et le docteur Héritier était protestant, lié au pasteur Lénard qui était le pasteur de Tence, avec qui Chouraki est entré en relation grâce aux connaissances qu'il avait dans le monde protestant.
Et c'est comme ça que Lennart l'a présenté à Héritier, qui a dit à Chaumarger, bah, écoutez, j'irai en vacances ailleurs, je vous laisse ma maison tant que vous en aurez besoin. Et Chouraki et sa compagne Colette, qui arrivaient de Paris en fuyant pour sauver sa vie, puisqu'il était juif, a trouvé là un havre qui lui a permis de passer toute la guerre, non seulement à l'abri, mais avec la possibilité d'avoir des activités de résistance, puisqu'il faisait partie du réseau de l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. Et il a placé dans la région des centaines d'enfants juifs.
Avec nos amis de Lyon, nous étions convenus d'un code pour assurer le secret de nos communications. On m'envoyait des bibles ou des livres de prières, petits ou grands, que je devais placer dans la région. Il n'était jamais question d'hommes, de femmes ou d'enfants. Avertie par courrier ou par téléphone, Madame Roux assurant la liaison, j'allais recevoir mon précieux chargement d'enfants à Saint-Étienne. Les pasteurs Linhart, Trocmé, Theiss, d'autres encore encouragent leurs ouailles à recevoir les juifs persécutés. Quand je n'ai pas assez de place pour mes enfants, le prêche du dimanche dans les temples protestants porte invariablement sur ce thème. Ce que vous ferez au plus petit de ces enfants, c'est à moi que vous le ferez. Les cœurs et les portes s'ouvrent si bien que jusqu'à la libération, pas un seul de mes réfugiés ne sera perdu. À l'arrivée, à chacune des nombreuses stations où le train omnibus s'arrête, les paysans sont là, 1, 2, 3, 4, impatients de voir le visage de leur filleul.
Il y avait aussi, au dos de la maison, une petite porte qui donnait directement dans les prés et qui permettait à Chouraki de s'enfuir en cas de menace. On va regarder cette maison qui est très jolie, avec une magnifique vigne vierge, un petit jardin. Ils y sont arrivés en août 42, au même moment où Camus arrivait à Panelier, et ils en sont partis 2 ans plus tard à la libération. Ensuite, Chouraki raconte qu'il a eu un épisode quasi psychotique. Il errait pendant des jours et des nuits dans les rues de Paris, pieds nus, en haillons, totalement traumatisé par ce qu'il avait appris de la Shoah, en fait, ce qu'on n'appelait pas encore la Shoah. Et puis il s'est remis, il a repris ses études de droit, il était déjà avocat, c'est un jeune avocat quand il est arrivé ici. Il a fait du droit international, il est ensuite parti en Israël, il est devenu le vice-maire de Jérusalem, il a beaucoup travaillé avec Ben Gurion. Et il a retrouvé ensuite en Israël une activité de traduction qu'il avait découverte ici, puisqu'il avait profité de son séjour ici pour traduire un rabbin du XIe siècle, je crois, l'expérience de la traduction qui va lui permettre ensuite de faire tout simplement une traduction de la Bible, qui est devenue la célèbre Bible Chouraki.
Qui rencontre-t-il alors Chouraki?
Alors Chouraki a été le grand go-between, si on peut dire, celui qui a connu beaucoup de monde. Il était jeune, il avait 24 ans à l'époque. Donc il a appris dès son arrivée ici que son maître à l'école rabbinique, Georges Vaïda, grand érudit, était réfugié tout seul, sans un sou, complètement traqué à Lyon. Il est allé voir le pasteur Trocmé, le pasteur Theiss ici, qui étaient donc les fondateurs de l'école Nouvelle Sévenole, et leur a demandé s'ils pouvaient trouver une place d'enseignant à l'école Nouvelle Sévenole pour Vaïda, ce qu'ils ont fait. Donc il a fait venir Georges Vaïda, qui a passé lui aussi tout le reste de la guerre dans la pension Beau Soleil, qui est à la sortie du Chambon. Et puis, Chouraki raconte dans ses mémoires que quelqu'un vient lui dire un jour « Il y a quelqu'un qui a besoin de faux papiers, va le voir. » Et il s'appelle Jules Isaac. Et il va voir le monsieur en question et découvre le fameux auteur d'Emmanuel Malé-Isaac. Il n'en croit pas ses yeux, puisqu'il a appris l'histoire dans l'Emmanuel Malé-Isaac. J'étais alors liée avec des faussaires héroïques qui fabriquaient les faux papiers nécessaires à la vie clandestine. J'allais immédiatement voir Jules Isaac. J'avais appris l'histoire cette année durant, au temps de mes études secondaires, dans ses manuels. Pour moi, il était davantage qu'un homme, une institution. L'homme était assis devant la table où il écrivait sur un mince cahier d'écolier qu'il me tendit dès qu'il sut que j'avais été élève de l'école rabbinique de France, que je m'intéressais à la Bible et que j'étais un hébraïsant. Je revois ce mince cahier d'écolier dont les pages étaient couvertes de son écriture si bien dessinée, si claire, si ferme, si honnête. De sa plume, il s'était appliqué à écrire en beau caractère le titre de la page de garde « Chrétien, n'oubliez pas ».
».
Vous voyez ici donc cette ferme d'Istor qui est vraiment au milieu de nulle part, hein, dans un site absolument prodigieux. C'est un cul-de-sac. C'est là que donc pendant la guerre, entre novembre 43 et l'été 44, ont vécu, se sont réfugiés un certain nombre de Juifs qui se sont donnés à eux-mêmes le nom d'école des prophètes. Ils logeaient donc dans la partie ancienne du bâtiment, dans une grange dans laquelle on avait créé un trou pour qu'ils puissent se cacher en cas de visite impromptue des gendarmes ou de la Gestapo. Et dans cette partie plus moderne, à l'étage, ils avaient installé leur salle d'études. C'était une sorte de yeshiva clandestine. Il s'agissait donc au départ d'un petit groupe d'éclaireurs israélites qui étaient à Moissac, dans la maison d'enfants de Moissac, donc des jeunes moniteurs avec à leur tête Georges Lévite, qui était un peu plus âgé, qui avait 25 ou 26 ans. Et puis lorsque Moissac a été menacé, il y a eu des rafles tout simplement, ils ont mis les enfants à l'abri et ils sont venus se réfugier en Haute-Loire, peut-être grâce à Chouraki, mais je n'en sais rien. Et ils y ont donc vécu plusieurs mois jusqu'à la libération. Ils ont été rejoints en avril 1944 par Jacob Gordin. Gordin était un très grand érudit d'origine russe, hein, qui est mort peu après la guerre, ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps de publier ses travaux, mais ils ont été publiés dans les années 1990, donc 50 ans après sa mort, ça s'appelle Écrit. Et le propos de Gordin, pendant ces années de guerre, était le souci de pouvoir, après la guerre, reconstituer les cadres intellectuels du judaïsme. Et c'est ce qu'il a fait avec d'autres. Et Gordin leur a donné des cours de judaïsme, si on peut dire, et était rejoint dans le rôle du maître par Georges Vaïda, puisque Vaïda habitait au Chambon-sur-Lignon et enseignait au collège Sévenol, et sont venus participer à ces séances, André Chouraki, qui est donc à 500 mètres d'ici, à Chaumarger, et Léon Poliakov, qui lui aussi est arrivé en avril 1944 et a passé donc les derniers mois à Tence. Donc on a cette sorte de petite communauté qui, étrangement, est une sorte de conservatoire de tous les types de rapports au judaïsme, parce que certains d'entre eux étaient des juifs quasiment ignorants de leur identité juive, non pratiquants, non religieux. Certains étaient des religieux, mais sans aucune connaissance de l'histoire du judaïsme. Certains étaient des spécialistes de l'histoire du judaïsme, comme Vaïda, mais pas du tout religieux. Donc en fait, on avait toutes les formes de rapport au judaïsme qui étaient concentrées ici, dans cette grange.
Et ces jeunes, en fait, après Nathalie, qui sont repartis.
Alors, ils se sont dispersés. Alors, on a Pierre Weil-Reynal, hein, qui était d'une famille d'intellectuels juifs très assimilés, donc qui a pris le maquis. Et puis, après la guerre, bah, il s'est marié, il a eu 4 enfants, il est devenu avocat, voilà, il a une vie normale, si on peut dire. On avait également Elie Rothnehmer, qui était qui faisait aussi partie donc, des éclaireurs israélites, qui est devenu ingénieur hydraulicien. Quant à Itzhak Mikaeli, il deviendra consul de France et ambassadeur d'Israël en Afrique. Je peux lire quelques passages de Itzhak Mikaeli. Celui qui a transformé mes deux compagnons, Elie Laté et Pierre l'Assimilé, en juifs religieux militants, ce fut Georges. Georges avait et a eu toute sa vie une force de transmission magnétique par des paroles et des atmosphères presque hypnotiques. On n'était pas endormi, loin de là. On se laissait absorber par ce qu'il disait et enseignait. En fait, c'est comme si on buvait ses paroles. C'est ainsi que nous nous sommes préparés à la fête de la Pentecôte pendant les 3 jours précédents, comme il est écrit dans la Bible, avant le don des 10 commandements. Cette nuit de Shavuot, nous l'avons passée à la belle étoile, en étudiant et en écoutant Georges nous décrire la mise en scène et la scène de Moïse montant sur le mont Sinaï, Dieu descendant vers lui et lui transmettant les tables de la loi, récitant les 10 commandements. Et quand on voit ce paysage, on a vraiment l'impression de pouvoir imaginer ce qu'ils ont pu éprouver en revivant par le texte, hein, cette histoire de Dieu descendant du mont Sinaï, parce qu'on est, pour moi, c'est vraiment un paysage mystique. Le
chemin que Chouraqui a dû prendre pour aller de Chaumarger à Pont-du-Cholet pour rencontrer Jules Isaac. Et donc ça passe par les champs et les bois, c'est magnifique. C'est plus joli que par la route, même si cette route est quand même très jolie avec de très belles maisons. Regardez comme c'est beau là, magnifique, le Mézinque, le grand mont qui est là-bas. Le mont Gerbier de Jonc, vous le voyez, c'est le suc plus à gauche. Donc, nous sommes au pont du Cholet, qui est donc en fait une ferme, hein, c'est un lieu dit. Et c'est là donc que Chouraqui, je suppose, est allé trouver Jules Isaac pour lui permettre d'avoir des faux papiers. Jules Isaac, donc, à l'époque, était déjà âgé, il avait 65 ans. Il s'était réfugié avec sa femme à Aix-en-Provence au moment de la débâcle. Et en août 42, ils étaient venus en vacances ici parce que leur fils aîné Daniel Isaac, avait épousé une fille de pasteur liée au pasteur Trocmé, au pasteur Theys, donc liée au Chambon-sur-Lignon. Et Daniel Trocmé enseignait la philosophie à l'école Nouvelle-Sévenole. Et puis en novembre 42, donc après le débarquement des Alliés et l'envahissement de la zone sud, il a fallu qu'ils fuient Aix, tout simplement pour sauver leur vie. Et donc ils sont retournés au Chambon, cette fois-ci, non plus en vacances, mais pour se cacher. Et donc on sait que les Isaac ont logé au pont du Cholet. Et c'était donc une ferme. Et c'est là que Jules Isaac a eu l'idée de ce livre qui allait avoir une telle importance après la guerre, « Jésus et Israël », qui est un livre où, avec les méthodes de l'historien, il a démontré que l'antisémitisme catholique n'était pas dans les évangiles, était absolument postérieur aux évangiles, et que donc il n'y avait aucune raison que l'Église continue à transmettre cet antisémitisme. Et donc ça a été le thème de « Jésus et Israël » et de « L'enseignement du mépris », de livres qu'il a publiés après la guerre. Et c'est ce qui lui a permis ensuite d'aller au Vatican et de convaincre le pape, grâce à la bulle Nostra Aetate et à Vatican II, de supprimer des prêches catholiques toute forme d'antisémitisme. Voilà. Donc ça a été quand même extrêmement important. Il a commencé à écrire ici, le problème étant, pour un historien, qu'il n'avait pas de bibliothèque, pas suffisamment de bibliothèque. Et leur fille Juliette vivait à Clermont-Ferrand avec son mari qui était résistant. Et je pense que c'est en partie pour se rapprocher de leur fille et en partie pour avoir des bibliothèques qu'ils ont choisi de quitter le Chambon en octobre 43, et ça a été fatal, puisque juste après, il y a eu une réunion, ils étaient à Rion, hein, Jules et Laure Isaac, juste après, il y a eu une réunion clandestine de résistants, ils ont été victimes d'une dénonciation, ils ont été raflés, et ils sont tous partis dans les camps, dont seul est revenu, après une marche de la mort invraisemblable, le plus jeune fils, Jean-Claude. Il se trouve que Jules Isaac était chez le coiffeur le jour où sa femme a été arrêtée. Et c'est comme ça qu'il en a réchappé. Et puis, à la fin de la guerre, il passait ses journées à attendre sa femme et sa fille au Lutetia. Et il ne les a jamais revus. Voilà. Et donc, il a ensuite passé toute la fin de sa vie à créer les amitiés judéo-chrétiennes et à militer donc pour la fin de l'enseignement du mépris par l'Église catholique. On est à l'angle du chemin des enfants à la montagne, hein. On est vraiment dans ce lieu de refuge des enfants sur le plateau. Donc cette maison, la Gaspille, était la maison que le Secours Suisse avait organisée pour abriter donc des jeunes juifs exfiltrés des camps, quelquefois avant de les faire partir en Suisse. Et donc c'est là qu'en juin 1942, Alexandre Grothendieck, qui avait 14 ans, est arrivé, sorti du camp de Rieucros où était sa mère. Sa mère était une Allemande protestante. Son père, qui était un juif russe, avait été pris par les Allemands et déporté à Auschwitz, d'où il ne reviendra pas. Donc Alexandre arrive et passe toute sa scolarité secondaire à l'école Nouvelle-Sévenole, le futur collège Sévenole, et c'est là donc qu'il va découvrir les mathématiques. À la fin de la guerre, en 1945, donc il quitte le Chambon.
Il réussit évidemment brillamment ses études, il monte à Paris et il va participer aux travaux du groupe Bourbaki, qui est extrêmement célèbre dans l'histoire des mathématiques, et il va devenir probablement le plus grand mathématicien du XXe siècle. Il aura la médaille Fields, hein, qui est l'équivalent du Nobel pour les mathématiques. Il va avoir une chaire au Collège de France. Et puis, après 68, après la découverte de la guerre du Vietnam, après toutes sortes d'événements politiques, il va se convertir, si on peut dire, à l'écologie. Il va créer le premier périodique d'écologie en France. Ça s'appelait « Survivre et vivre ». Il s'est ensuite complètement coupé du monde. Il est allé s'enfermer dans une maison au fin fond de l'Ariège. Et paraît-il, il a aussi, dans les dernières années de sa vie, passé beaucoup de temps à faire des liens étranges entre les noms des Juifs morts dans les camps, des Juifs exterminés, et à créer des sortes de relations improbables entre ces noms. Enfin, il était dans une sorte de toile d'araignée mentale, totalement obsédé par la question de l'extermination des Juifs. Chemin des enfants à la montagne, ça fait partie de tous ces noms de rues au Chambon qui renvoient à des expériences comme par exemple la rue du Champ de l'âme, non, de la montée du Champ de l'âme, magnifique. Et ce village a une spécificité, c'est qu'il n'y a aucune rue qui porte un nom propre de quelqu'un. Et ça fait partie de l'éthique du pays. On ne se vante pas, on ne met pas les gens en valeur. Ce qui compte, c'est la probité de l'action, c'est la foi. Et donc même le pasteur Trocmé, qui a été quand même un personnage absolument fondamental pour le pays et très très important, ne porte pas de rue à son nom, au Chambon-sur-Lignon. Et il y a par contre le chemin des enfants à la montagne.
Ce que j'ai envie d'écrire, c'est le pré. Un pré entre bois et rochers, et ruisseaux et rochers. Je l'ai conçu au Chambon-sur-Lignon cet été, non loin de Chante-Grenouille. Hi, hé, hé, hi. Francis Ponge.
Merci à Nathalie Hennick et Aziza Grill-Mariott. Lecture, Daniel Koningsberg. Prise de son, Laurent Lucas. Sur les traces des écrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon, une émission de Séverine Liattard et Anne Fleury.
Voilà pour ce documentaire que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture et commenter sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou en nous suivant sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC, demain vendredi, l'émission Actualité et Histoire de la Fabrique de l'Histoire.